Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans Une Heure en Série, saison 3, épisode 10. Une Heure en Série, le 55 minutes chrono de France Inter pour débattre de l'actualité des séries. Et grâce à la vie affûtée, mordant mais jamais de mauvaise foi. Alors là, j'en serai le premier surpris de nos chroniqueuses et de notre chroniqueur, et bien essayer de vous recommander le meilleur de la série. Et ce soir, nous parlerons Cholézarde et Road Movie de Happiness sur Arte TV, Conspiration de l'ombre et polar anxiogène avec Killer Social Club sur Audible, Taxi dans la nuit et Organisation secrète avec VTC sur MyCanal.
Une heure en série, Xavier Le Herpeur.
Et avec nous ce soir, autour de la table d'une heure en série, une petite nouvelle, Émilie Gavoil de Télérama. Bonsoir Émilie.
Bonsoir Xavier.
Elle a l'air comme ça, toute innocente, elle ne sait pas dans quel bain elle s'est jetée. Elle va vite le découvrir, on est ravis en tout cas de vous accueillir, chère Émilie.
Et moi d'être parmi vous, merci.
Isabelle Danel de Bandapart.fr.
Bonsoir Xavier, bonsoir tout le monde.
Je n'ai rien dit sur votre pull.
Merci.
Non, mais je l'avais promis. Et Benoît Laguin du 5-7 de Mathilde Munoz.
Bonsoir.
Et Télématin.
Et ne dites rien sur ma chemise, merci.
Non plus, okay. Voilà. Non, parce qu'Isabelle a une espèce de costume un peu cheap de Wonder Woman avec un t-shirt rouge et une étoile. Mais je suis sûr que quand vous vous tournez sur vous-même, ça fait des étincelles.
Absolument.
Eh bien, on attend de voir ça.
Vous allez voir.
Pendant l'émission. Un road movie à travers l'Iran et un portrait inattendu d'une jeunesse en quête de liberté d'esprit et de corps. Happiness, une série iranienne, format court, les 15 épisodes faisant à peu près 5 et 6 minutes en moyenne, une série sélectionnée à Sérimania et disponible à la fois sur Arte TV, YouTube et Instagram. Dans le tout premier épisode de ce futur road movie cocasse et surprenant par sa liberté de ton, nous faisons la rencontre de Shadi, lycéenne habitant Téhéran et qui s'apprête à suivre sa mère, qui, elle, cherche à rejoindre la France. Mais l'ado a confié son passeport à Sina, un beau jeune homme aux cheveux décolorés, un garçon séducteur et roublard tombé sous le charme de notre héroïne et qui va l'accompagner à travers l'Iran pour l'aider à retrouver son père qui, bien que divorcé, reste la seule autorité admise pour permettre à Shadi de quitter le pays. Expatriation, interdit, cocasse séquence autour d'une bouteille de vin, poids de la religion, patriarcat, place de la femme, désir de liberté de la jeunesse, réseaux sociaux. Cette série brève et ironique brasse toutes sortes de sujets dans une insolence de ton et de réalisation inattendue, il faut bien le dire, pour une série iranienne.
ما فقط یه درخواست ویزا دادیم حالا منتظریم ببینیم اصلا سفارت جوابمونو میده یا
آیا پدر شادی رضایت داده به این مهاجرت؟
دروغ میگی؟ ببخشید من شادی؟
پارسا قرار اسکورتشون کنم تو سفر
وسط بیابون گیر کردیم با ساقی مواد و پسرخاله ابله هم چی دیگه این افتضاحه؟ وقتی فرمونو کرد
Happiness, une série de Pouria Takavar et co-scénarisée par Yachar Ali Chenas, auteur qui s'apprête d'ailleurs à signer une série en langue française avec dans les rôles principaux la pétulante Ghazar Choyager et le très charismatique Sohail Bavi. Côté de la presse, Vogue salue ce portrait novateur de la jeunesse iranienne. C'est clair qu'effectivement, c'est novateur. Émilie, qu'en avez-vous pensé ?
Alors moi, j'avais une vraie curiosité pour le sujet. Et la série, donc.
Oui, des séries iraniennes, on n'en a pas si souvent que cela à notre disposition.
Et j'avais un a priori favorable parce qu'Arte avait déjà, il y a quelques années, signé, en tout cas mis à l'antenne, sur son site, deux séries documentaires sur la jeunesse iranienne, assez inventives formellement. Il y avait eu d'abord Irano Filter en 2017 qui racontait l'Iran à travers le regard de 10 photographes et c'était très bien vu puisque l'Iran est un grand pays de photographie. Et puis, il y avait eu Selfie iranienne, 2 ans plus tard, je crois, qui racontait là la vie de jeunes femmes qui étaient saisies dans leur intimité devant leur miroir et qui donc racontaient leur rapport à leur corps, à leur vie personnelle.
À leur environnement, ouais.
Voilà, tout à fait. Et donc, ces concepts documentaires originaux, moi, je m'attendais à les retrouver dans toute leur originalité dans cette série de fiction. Et j'avoue que j'étais un petit peu... déçue par la forme.
N'hésitez pas, il n'y a pas de problème.
Voilà, par ce road movie. Alors, je trouve qu'il s'y dit beaucoup, beaucoup de choses. Mais moi, c'est vrai que les péripéties, les accidents de parcours, je les ai un petit peu vus arriver à certains moments. Et ce qui m'intéresse vraiment davantage, c'est plus le sujet, ce que ça raconte, ce que ça dévoile, que la forme.
C'est votre dernier mot ?
C'est mon dernier mot, bah pour alors, le moment.
Benoît Lagane.
Moi, au contraire, j'ai trouvé que c'était une excellente surprise. J'ai trouvé que dès le premier épisode, ce personnage de Shadi existait totalement et que donc, on avait envie de la suivre où qu'elle habite, où qu'elle soit. Et petit à petit, au fur et à mesure de cette mécanique road movie finalement assez classique, on finit par découvrir épisode après épisode, 5 minutes par 5 minutes, cet Iran pluriel, en fait, et jusqu'à cet épisode qui dure un peu plus longtemps. À un moment donné, on a un épisode un peu plus long, ils sont dans le désert, ils sont un peu perdus, et là, les personnages se livrent un petit peu plus, enfin, il y a quelque chose qui... Et en fait, je suis pris par l'épopée, à ce moment-là, qui se met en marche. Alors certes, on va dire que cette jeune femme qui part à la recherche de son père, on se dit qu'on pourrait être dans n'importe quelle série, dans n'importe quel univers, sauf que fabriqué dans ce pays-là, avec les images que l'on en a, ah ben justement, c'est ça que je trouve bien, c'est-à-dire c'est d'assumer complètement la fiction et de s'éloigner de tout documentaire, justement, possible. Et puis, la ruralité de l'Iran aussi qui est montrée, de la même manière qu'on voit la ville de Téhéran, et moi je trouve que ça fait un bien fou quand, justement, elle quitte Téhéran pour aller ailleurs. Et je sors de la série avec ce regret, presque que ça s'arrête, parce qu'en fait, j'aurais aimé que ça continue. J'ai vraiment apprécié elle et ses friends iraniens comme n'importe quelle série d'amitié.
Des lieux d'ailleurs qu'ils vont traverser, qui ne sont pas totalement innocents parce que ils dessinent aussi les différentes facettes de l'Iran contemporain. Il y a Téhéran, effectivement, la capitale, peut-être nébuleuse, plus émancipée, plus avant-gardiste, mais ils vont aussi dans la capitale religieuse de l'Iran où on leur demande plusieurs fois de remettre correctement le voile. Donc les choix de ville et les choix de destination ne sont pas totalement innocents. Isabelle Danel.
Non, moi j'aime beaucoup ça, contrairement à Émilie. Je trouve que l'approche légère contrebalance la violence que peut être l'Iran aujourd'hui, une violence qui s'exprime par des interdits de toutes parts et qu'on ressent pas ici parce que les personnages sont avant tout dans leur jeunesse et dans leur désir de vivre et dans leur désir de découvrir des choses, etc. Et du coup, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien sur ce format court. Peut-être que si c'était moins bref, on aurait un peu plus de mal, mais là, ça va très vite, c'est très très bien mis en scène, je trouve. L'image est magnifique et il y a des ellipses absolument étonnante d'un épisode à l'autre qui font que ça va très vite, que ça ne s'appesantit jamais. Et cette jeune femme, cette jeune fille de 17 ans, elle est effrontée, elle est combative, elle est intéressée par l'amour, elle est intéressée par de nouvelles expériences. En même temps, c'est une gamine, elle a une espèce de peluche de licorne accrochée à son sac. Elle est en permanence sur son portable. Enfin, c'est vraiment une adolescente d'aujourd'hui dans ce monde qui n'est pas le nôtre, qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal ou qu'on connaît à travers le cinéma. Et je trouve qu'une série aussi accessible peut évoquer vraiment beaucoup, beaucoup de choses et donner un intérêt pour l'Iran et une conscience de ce qu'est l'Iran aujourd'hui, quoi. Donc moi, je trouve ça plutôt bien. C'est populaire, ça peut fonctionner sur les très jeunes gens et ça dit des choses vraiment très importantes.
Émilie ?
Oui, j'entends et je partage une partie des choses que défendent Isabelle et Benoît. Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que ça raconte, c'est que finalement, cette jeunesse qu'on pourrait imaginer extrêmement tentée par l'exil, par le monde occidental, finalement est plus attachée qu'il n'y paraît et peut-être qu'elle ne le réalise elle-même au premier abord par certaines traditions, par l'histoire de son pays, par sa diversité. Et ça, je pense que effectivement les personnages le découvrent et Shadi le découvre au fur et à mesure des épisodes. Donc non, moi le propos, je le trouve relativement intéressant, mais la forme, ben, effectivement, je le redis, un tout petit peu laisser sur ma faim.
Benoît va évidemment conclure le débat, il faut le savoir, Émilie. Benoît ne laisse jamais quelqu'un d'autre à part lui conclure.
Non, mais je trouve non, c'est pas vrai. Juste, il y a de la musicalité, en fait, dans ce format court. Et je trouve qu'en fait, la forme, elle est là. C'est-à-dire que je trouve que ça chante, en fait, tout le temps, même si ça ne chante pas.
Il y a beaucoup de musique, en l'occurrence.
Oui, aussi.
Il y a beaucoup de musique. Il y a du rap iranien, de la variété iranienne. Il y a même Papa Outé de Stromae. Oui. Il y a quand même énormément de musique.
Et les pâtisseries. C'est vrai que la scène où elle apprend le français en écoutant la chanson de Stromae est assez savoureuse. Non, mais alors là, c'est fini. Hein, c'est terminé. Je crois que
et
c'est quand même
terminé,
un avis.
C'est pas Benoît qui a terminé.
Voilà. C'est la preuve. Un avis globalement positif, même si on entend tout à fait les réserves d'Émilie concernant Happiness. La série, je le rappelle encore une fois, disponible sur Arte TV, YouTube et Instagram. Par Yelly, Yelly. Depuis 6 ans, la chanteuse Émilie Ayack replonge dans ses origines musicales kabyles. Yelly, Yelly, c'est la gamine en Kabylie, celle qui arrive dans ce pays d'origine qu'elle ne connaît qu'au travers des chants traditionnels et qui se les réapproprie dans ce nouvel album intitulé La mécanique de la violence. Un voyage ensoleillé vers ses racines pour célébrer la belle richesse musicale algérienne.
France Inter. Série.
Conseil littéraire en écho à la série Happiness sur Arte TV dont nous venons de parler, quand s'illumine le premier sauvage, un roman de Chokoufé Hazard, paru aux éditions Charleston. C'est pour moi l'un des immenses coups de cœur de cette rentrée littéraire. Un roman poétique, fleuri, envoûtant et coloré qui se déroule paradoxalement pendant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'Iran, celle de l'arrivée au pouvoir de Khomeini à la suite du renversement du très contestable Shah lors de la révolution de 1979. Forcé de fuir la capitale, un couple d'intellectuels et leurs enfants se réfugient à la campagne sans pouvoir échapper à la folie idéologique et religieuse qui s'empare de leur pays. Le tour de force de l'autrice, dont c'est ici le premier roman, est d'éviter le piège du livre pamphlet réaliste pour lui préférer une forme onirique et merveilleuse, merveilleuse au sens fantastique du terme, pour raconter la tragédie traversée par ses personnages et leurs compatriotes. Un récit comme une mélopée entonnée à la première personne, mais je ne vous dirai absolument pas qui est la narratrice. L'autrice signe un récit où s'entremêlent réalité et fantasmagorie, événements historiques et ancestrales, légendes iraniennes. On y croit entre autres un garçon aux dons botaniques hors du commun ou un couple dont l'amour incandescent embrase l'herbe lorsqu'il s'adonne au plaisir charnel dans les prés. Certaines pages tutoient le sublime, comme celle où, lors d'un auto-da-fé, les livres expirent et font entendre les cris désespérés des héros et des héroïnes victimes des flammes qui sont en train de mourir. Ou encore celle d'un Walking Dead, où Chokoufé Hazard invente une horde de fantômes et de morts-vivants qui assaillent et menacent Khomeini, qui est obligé alors de se réfugier dans un palais de miroirs où il perdra définitivement la raison. Un roman magistral aux allures de fables mémorielles et extravagantes, et politiques bien évidemment, quand s'illumine le prunier sauvage de Chokoufé Hazard aux éditions Charleston. C'est une première ce soir dans Une Heure en Série, puisque nous allons parler de séries, bon, jusque-là, très nouveau évidemment, mais de séries audio, autrement dit, l'héritière de ces séries créées pour la radio et qui se racontent par la voix, le jeu des actrices et des acteurs, la mise en scène sonore, la mise en onde, comme on disait autrefois, mais sans aucun recours à l'image. Et pour cette première, nous allons évoquer KSC Killer Social Club, une série disponible sur les sites Audible. Et série entièrement originale, puisque non adaptée d'un roman, et spécifiquement conçue pour cette plateforme, spécialisée en revanche dans les transpositions sonores de romans, et qui propose à ce jour plus de 400 000 titres. Une voix dans la nuit, effrayée, tétanisée par la peur, celle du narrateur, un jeune flic, Kappa, qui essaye d'enclencher une vieille cassette audio pour y raconter la spirale infernale dans laquelle il a plongé un soir lors d'une intervention sur un lieu de crime. Ultime chance pour lui d'échapper au sort funeste d'une organisation de tueurs de l'ombre dont il a eu le mauvais goût de vouloir révéler les agissements au grand jour.
Bouge plus, putain, bouge plus, si tu bouges, je tire. Reste au sol, bouge plus. Bouge pas. Bouge pas. Ici l'agent Kappa. J'ai un 10-31, un 10-24. Je répète, 10-31 et 10-24. Merde, ça marche pas. Bouge pas! Bouge pas, toi! Ici, l'agent Kappa. Il y a une victime attachée à un fauteuil. Il doit avoir une quarantaine d'années. Le tueur est toujours vivant. Il est allongé sur le sol. Il a un couteau à la main. La victime est décédée. Il a reçu une bonne vingtaine de coups de couteau, je dirais. Le fauteuil est imbibé de sang. Il n'y a que le visage qui est intact. Bouge pas, merde! Bouge pas, bouge pas.
Killer Social Club est une série écrite par Frédéric Petitjean avec, on vient de l'entendre, Vincent Elbaz, mais également Mathieu Kassovitz, Fred Testo, ainsi que Geneviève Douang et Thierry Frémont. Benoît, cette série dans la nuit, cette voix comme ça inquiète, vous a-t-elle terrorisé ?
Un peu. En fait, c'est vrai que ce qui est intéressant avec l'arrivée des podcasts, c'est que tout d'un coup, tout le monde redécouvre les maîtres du mystère. Et donc, finalement, il y a quelque chose d'un plaisir enfantin à se laisser bercer comme ça par ces histoires.
C'est exactement cela.
Et Killer Social Club, dans cette première fonction, ça fonctionne plutôt bien. Et je trouve que Vincent Elbaz est vraiment brillant. C'est-à-dire qu'on oublie le Vincent Elbaz, on l'imagine, on se le réinvente en fait. On ne voit pas Vincent Elbaz, on voit vraiment ce personnage. Ça marche plutôt bien. C'est pas le cas de tout le monde, hein, parce que je trouve que par exemple, typiquement, Mathieu Kassovitz a l'impression de venir faire, là, de lire quelques lignes. Et je trouve qu'on, justement, on l'entend lire plus que jouer. Et c'est dommage parce que les autres font du beau boulot. C'est vraiment le plaisir comme on avait quand on écoutait Jean Rochefort nous raconter Winnie l'ourson. C'est-à-dire qu'à la fin de l'épisode, on nous avait digging, tourné la page. Et ben là, on n'a pas à tourner la page, mais on va vite sur l'épisode d'après. Donc on est pris, même si l'histoire, cette enquête d'un flic autour de cette société secrète est un poil alambiquée, on comprend pas tout, on est souvent perdu, mais il y a une ambiance quand même qui nous prend. Alors, elle n'est pas la seule, bien évidemment, dans le contexte. Il y a au même moment, sort par exemple l'adaptation du roman de Joël Dicker par Anna Girardot, qu'elle a pris le parti pris, Anna Girardot, de réaliser sa fiction en décor quasi naturel, dans une voiture, dans un vrai appartement. Eux, ils font le choix vraiment du pur studio, et ça s'entend parfois un peu trop, mais malgré ça, je trouve qu'on, quand même, on est happé, et on va jusqu'au bout des 20 épisodes assez facilement. C'est parfait quand on prend le métro, par exemple, ou quand on prend un long voyage en voiture, ça marche bien.
Merci beaucoup Tigrou Lagan. Voilà, vous êtes quand même beaucoup plus Tigrou qui est un peu surexcité que Winnie l'ourson qui me ressemble un peu ventripotent et un peu pépère quand même. Isabelle Danel.
Oui, alors
c'est bien de répondre à votre nom déjà.
Le Winnie l'ourson, là, j'avoue, ça m'a un peu décontenancé. Sans avoir l'air d'être trop corporatiste, j'ai tendance à dire que sur France Inter et Radio France en général, il y a des fictions et des dramatiques sonores quand on
bien dit. Sûr.
Comme on disait à mon époque, qui sont bien mieux fichus que celles-ci, quoi. Donc moi, j'ai un petit souci quand même, c'est-à-dire que je trouve que ça manque d'épaisseur, ça manque de contexte, ça manque de décor, de bruit, de son, etc. C'est assez métallique la plupart du temps. Il y a deux trois petits effets sonores, et c'est faut s'accrocher quand même pour rester. Moi, me manque bien sûr l'image. Mais me manque plus que ça, me manque vraiment une espèce d'épaisseur qui existe à la radio ou dans un certain nombre de podcasts et qui n'existe pas là pour moi, quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu limité. Je trouve que ça manque de plein de choses, ça manque d'humour. Enfin, il y a trois vannes sur KSC, KFC, merci beaucoup. En dehors de ça, il y a pas grand chose. Ça se prend très au sérieux, c'est un peu bas de plafond. Et par ailleurs, il y a pas beaucoup d'extérieur, il y a pas beaucoup de personnages extérieurs. Ils en croise 2-3, il y a un moment une scène assez drôle avec la mère du personnage interprété par Kassovitz, mais qui est quand même très à l'emporte-pièce. Enfin voilà, ça manque vraiment d'originalité et d'intérêt sonore, quoi, de réalisation pure.
Là, encore une fois, c'est pas une dramatique, hein, c'est vraiment une série découpée en certain nombre d'épisodes qui durent tous à peu près 10 minutes avec un cliffhanger à la fin de chaque épisode, c'est-à-dire un coup de théâtre où on voit, où on devine le héros hors champ menacé, tétanisé, surpris. Donc il y a quand même une construction scénaristique particulière. Ça vous a pas intéressé?
Non. Ça m'a intéressé, j'ai tout écouté jusqu'au bout, mais justement, en plus, c'est vrai que comme il n'y a pas la petite clochette comme pour Winnie l'ourson, moi j'ai eu tendance à l'écouter comme un seul bloc, si vous voulez, à pas du tout arrêter, reprendre, etc. Et en me disant, bon voilà, je me fais les 15 épisodes. Et c'est vrai que malgré tout, je trouve ça un peu faible, même en termes de cliffhanger, comme vous disiez, tout ça. Je trouve que ça se suit, ça s'écoute, mais ça ne va pas au-delà pour moi.
Émilie.
Oui, moi je partage assez l'avis d'Isabelle. Je trouve que la construction est assez récurrente, effectivement, avec ce système de cliffhanger à la fin de chaque épisode. Et puis, je partage également votre avis, Isabelle, sur les effets sonores qui sont finalement un peu artificiels. On entend effectivement le studio et...
Ça manque de relief, c'est un peu plat.
Oui, et je trouve que parfois, ça étouffe aussi un petit peu les dialogues, ça étouffe un peu l'émotion, ça sature un peu... l'espace, on a parfois du mal, en tout cas moi j'ai eu du mal parfois à suivre les échanges, à m'y plonger vraiment, puisqu'il y avait ce son à la fois, des effets à la fois omniprésents et pas tout à fait naturels. Voilà, et puis je dois avouer aussi que moi les tandems de flics un peu obsessionnels et un peu borderline, je commence à en avoir un tout petit peu soupé, donc je suis peut-être pas la cliente principale et première de ce type d'intrigue.
Il y a un personnage féminin quand même que j'ai pas évoqué, qui moi est le seul qui m'est un peu accroché, qui est un personnage de hackeuse, qui atteint jamais les sommets d'une Lisbeth Salander dans les séries, dans les bouquins bien sûr, mais dans les séries de Stieg Larsson. Mais
Millennium.
Ouais, dans Millennium. Néanmoins, ce personnage-là, je trouve, comme il introduit aussi ces notions de modernité, de fuite des données, etc. Voilà, à ce moment-là, ça s'épaissit un peu et ça, c'est plus intéressant que les deux flics, comme disait Émilie, qui sont un peu classiques, voire caricaturaux, quoi.
Alors, c'est quand même un récit à la première personne, en flashback, oui. Hein, on va dire, puisque tous ceux dont se souvient Kappa avant la résolution finale. Est-ce que, je pose la question un peu néophyte, est-ce que c'est le seul moyen de faire de la série audio, c'est-à-dire avec une voix leader qui raconte, comme Jean Rochefort autrefois dans Winnie l'ourson, on pourrait avoir d'autres références bien évidemment, et avec un récit qui se fait effectivement de manière rétroactive à l'ancienne, est-ce que c'est la seule et unique façon? Moi, j'ai pas encore écouté Joël Dicker, est-ce que c'est le même principe?
Hein, non, pas du tout. Là, on est vraiment dans, on rentre vraiment dans la fiction et on est vraiment dans le décor presque naturel. Donc du coup, il n'y a pas cet effet studio que l'on a là. Et c'est vrai que là, c'est le parti pris de dire bon, vous écoutez quelque chose, donc on va vous faire écouter quelqu'un qui parle à un micro. Donc c'est la porte d'entrée. Donc ça marche, hein, mais il y a bien d'autres façons de le faire, effectivement.
Voilà, donc c'était un premier essai en termes de débat autour de cette série audio qui est la Social Club, disponible sur Audible. Baby bet, ayy, couple X, ayy, couple Grammys on him, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, and this one is for the champion, ain't lost since I began, yo, funny how you said it was a yeah, yo, you know we did it again, yo, I told you long ago, on the road, I got what they want. Get your soul, just tell them I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them that the break is over. Need a couple number ones. Need a pack on every song. Need me like one with Nicki now. Tell a rap nigga, I don't see ya, huh? I'm a pop nigga like Bieber, huh? I don't fuck bitches, I'm queer, huh? But these nigga bitches let me deal, yeah, yeah, yeah. Hey, holy do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up, now everybody trying to sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. Track record so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy, y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we taking notes, tell them all to keep making posts. Wish he could but he can't get close.
toes. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Ay, where's y'all sense of humor? Ay, I'm done making jokes cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers.
I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Get your soul, just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them that the break is over.
Industry Baby par Lil Nas X et Jack Harlow, c'est le phénomène du moment. Lil Nas X est noir, gay, uber gay, hein, on pourrait même tenter de le dire. Dans ses clips, petit rappel des faits, il danse à poil, montre sa croupe et emprunte sa pleine bouche. Ces danseurs qui n'ont pas l'air de se plaindre d'ailleurs. Un provocateur indispensable pour continuer à faire exploser les tabous et les interdits, en particulier dans l'industrie très machiste du rap, dont il est paradoxalement l'un des artistes les plus talentueux et les plus rentables. Et ça excuse beaucoup de choses aux États-Unis. Une formidable revanche pour ce chanteur à la salutaire fierté queer.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est l'heure du très queer, Benoît Lagasse. Je ne peux pas m'en empêcher.
Chaque semaine, j'ai droit.
Mais ouais, mais c'est comme ça qu'on se forge une réputation louable, fortement, évidemment. C'est l'heure de votre effet miroir. Et donc, cette semaine, c'est assez queer quand même, je suis désolé Benoît. Vous avez décidé de répondre positivement à une auditrice qui, il y a quelques semaines, demandait dans un courriel une rubrique. Donc de Benoît Lagasse sur les cheveux. C'est le quart d'heure capillaire.
Exactement, cette auditrice est prénommée Elfie. Alors véritable prénom ou pseudo, hein, en clin d'œil à Elfie, la chanteuse des années Récréa 2, celle qui chantait dans Tom Sawyer, vous savez que l'Amérique était le pays de la liberté. Peut-être, puisque Elfie, la chanteuse, avait une belle chevelure rousse à la Émilie Gavoile, mais en plus permanentée. Bref, Elfie, notre auditrice, m'invitait à parler des cheveux des personnages de série. La prenant au mot, je me disais qu'il y avait bien quelque chose à raconter sans trop capillotracter mon effet miroir. Et en lisant le mail d'Elfie avec plus de précision, je vois qu'elle nous envoie en pièce jointe des photos d'un cahier avec des photos et des notes, et une photo m'a tout de suite sauté aux yeux, celle de Alias ou Jennifer Garner, alias Sidney Brito, alias une étudiante en civil, alias une espionne en secret, travaille pour la CIA, en fait non, pour les méchants du SD6, enfin oui, car elle est agent double ou triple, enfin on compte plus, alias dont on fête les 20 ans cette rentrée et qui a marqué, entre autres, pour l'inventivité des looks du personnage principal. 2, 3, 4. Dans les 25 secondes du générique de la saison, 4, 5, 6, 7, 8. On voit défiler à grande vitesse un nombre incalculable de plans de Sidney Bristow, arborant diverses tenues, coupes de cheveux, avec ou sans perruque. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Les fans ont d'ailleurs fait les comptes. Hein. 16, 17, 18, 19, 20. Plus de 60, dit-on. Et oui, la coupe de cheveux, c'est le premier acte d'un changement de peau quand on est espion. Et quand il faut passer inaperçu, c'est aussi ce qu'avait très bien compris Martin Landau dans Mission Impossible. Mais pour J.J. Abrams, permettre à Sidney de changer de coiffure à chaque épisode sans toucher un seul des vrais cheveux de Jennifer Garner, c'était un coup de maître.
Et un coup de maître pour quelle raison?
Eh bien parce que J.J. Abrams était, j'imagine, traumatisé par l'affaire Felicity, sa toute première et grande série où Kerry Russell, bien avant d'être l'espionne russe de The Americans, interprétait le rôle principal, donc celui de Felicity. Cette série est une bluette étudiante, très efficace et remplie de trouvailles. Abrams y teste des idées qu'il mettra en forme dans d'autres séries. Par exemple, il invente deux fins possibles à son histoire, comme Fringe plus tard avec ses deux lignes temporelles, vous voyez. Alors qu'il raconte l'histoire d'une jeune étudiante, il a cette idée de créer Alias, une série avec une étudiante qui serait sur les bancs de la fac le jour et espionne à l'autre bout du monde la nuit. Et c'est Kerry Russell qui est un temps pressenti pour le rôle. Prise par d'autres projets, c'est Jennifer Garner qui l'empoche. Garner que l'on avait vu passer d'ailleurs dans un rôle très secondaire dans Felicity.
Vous voulez pas en venir un peu aux cheveux, là, quand même?
Si, si. Felicity reste malgré tout dans les mémoires d'Hollywood pour une triste expérimentation capillaire, oui. Kerry Russell, qui arbore une belle et longue chevelure blonde et bouclée en saison 1, débarque en saison 2 avec beaucoup moins de cheveux sur la tête. L'audience baisse, la chaîne sort comme argument que c'est à cause des coups de ciseaux. Bon, la série avait été aussi basculée à une autre case horaire hein, par rapport à la saison 1. Du coup, la production décide de se couper les cheveux en quatre et impose aux comédiens et aux comédiennes de ne plus se faire couper les cheveux inopinément. Ce qui est dingue, c'est que les cheveux courts de Felicity, c'était en fait une idée dans le scénario. C'était pas du tout l'idée de Kerry Russell. Une idée plutôt intéressante d'ailleurs qui venait appuyer un changement de cap pour le personnage comme un moyen de montrer que la jeune étudiante de la première saison devenait plus mature. Une coupe de cheveux en dit beaucoup sur un personnage, même quand il n'y a pas un poil sur le crâne. Un homme totalement chauve évoquera souvent un personnage qui a la tête dure, comme Vig Mackey dans The Shield. Avec ou sans poil, le destin de certains hommes pourra être scellé sur l'absence ou pas d'une moustache. Mais ça, c'est un autre dossier. Pas certain que ça m'intéresse d'ailleurs à la question, mais pourquoi donc le nouveau Magnum ne porte-t-il pas de moustache comme Tom Selleck dans les années 80? Moi, je vous laisse y répondre et personnellement, je m'en bats les couettes.
Un effet miroir spécial, pilosité féminine et masculine. Merci beaucoup, cher Benoît. Je crois qu'on aura tout entendu. Un effet miroir que vous pouvez réécouter ou bien pas, évidemment, en podcast. Vous êtes dans une heure en série, enfin, je crois, toujours sur France Inter, enfin, je crois, en tout cas, aux dernières nouvelles.
Sur
avec
France
ça,
Inter.
J'en suis sûr.
Ah, c'est bon. Très bonne.
France Inter, je crois.
Ouais, non, mais voilà. Et Émilie Gavoil, donc, maintenant, qui
bienvenue.
Est à la fois les grosses têtes et une heure en série, c'est bon à savoir. Isabelle Danel et Benoît Lagane. C'est bon?
Oui.
Un VTC qui roule dans la nuit parisienne, à son volant une femme prête à tout pour se sortir de l'impasse financière où elle se trouve et qui, à cause de cela, va se retrouver prise au piège d'un engrenage de trafic illicite qui pourrait bien lui être fatal. VTC, la nouvelle création décalée de Canal+, en 5 épisodes de 20 minutes, disponible sur MyCanal. Entre 18h et 6h du matin, dans le huis clos de l'habitacle d'une voiture lancée dans les rues de la capitale, une femme charge des clients qui soit l'ignore, soit la regarde de trop près. Une femme cherchant à récupérer la garde de sa fille, sans domicile fixe, vivant dans sa voiture et qui entrevoit l'espoir d'une amélioration de son sort lorsqu'elle remplace au pied levé son frère pour livrer un mystérieux colis, une course facile pour de l'argent qu'il est tout autant, mais derrière lequel se cache un réseau de l'ombre dont les agissements vont rapidement menacer la sécurité de notre héroïne.
Ça va toi? Tiens le coup? T'as l'air éclaté, t'as pas pris hein?
On va vraiment parler de ça à chaque fois? En plus, il y a l'électronique de ma bagnole qui déconne depuis mon accrochage.
Bah, va voir Eddie pour ça.
Eddie?
Bah oui, Eddie, mon mécano, là. Si tu l'appelles de ma part, il te fera un prix, hein. Attends, je vais t'envoyer sa fiche, là. Attends.
Ben? Ben?
112 ambulances et pompiers, bonjour.
Oui, c'est pour signaler un accident. Boulevard des Bouvins à Nanterre. Ça l'est grave, vous pouvez envoyer quelqu'un vite.
D'accord, on va envoyer quelqu'un sur les lieux.
Non mais
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je sais pas, c'est parti en sucette dans un virage là. J'ai percuté le mur, j'ai rien compris.
Il a quoi monsieur?
Des douleurs aux côtes, c'est tout à première vue, rassurez-vous, l'airbag l'a protégé. On va l'emmener pour faire des examens.
On peut pas aller à l'hôpital, je dois déposer un sac à un pote.
Je vais le déposer ton sac, il est où?
VTC, une série en hommage au film noir, avec ses unités de lieu, d'action et de temps, coécrite par Sébastien Drouin et Julien Bittner, et réalisée d'ailleurs par ce dernier, avec, on l'a reconnu à la voix, Goldshifté Farani et Vincent Hénen. Isabelle, avez-vous été embarquée dans ce taxi de nuit?
Eh ben oui, absolument.
Ça fonctionne, hein?
Oui, oui, moi je trouve que ça fonctionne, c'est prenant, on clique pour voir la suite, hein, c'est assez court, hein. Et surtout, il y a des plans nocturnes de toute beauté. Je trouve que les éclairages sont par moments presque féeriques et ils contredisent la situation qui est assez glauque. Par exemple, à un moment, il y a deux silhouettes qui se débarrassent d'un corps dans la scène et le fond du cadre scintille avec, on dirait, un théâtre de lampions. C'est absolument magnifique. Donc, voilà, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien foutu. En plus, je sais gré aux auteurs d'avoir évité les dialogues de rigueur du genre « Putain, on nous tire dessus !» J'y crois pas, qui sont quand même l'apanage des séries du tout venant des séries polars. Et là, on est dans le silence, on est beaucoup dans le souffle de Goldshifté Farahani. Et du coup, il y a une vraie ambiance là pour le coup sonore et une ambiance d'angoisse qui ne naît pas de choses factices, qui naît effectivement de tout ce qui se passe et de la violence, de tout ce qui lui lui arrive. Et du coup, je trouve que ça fonctionne. C'est encore une fois, c'est une petite chose. Hein. C'est pas, ça va pas très très loin, mais dans le temps imparti, je trouve que ça respecte vraiment tous les codes et ça marche très très bien.
Il y a un travail sur le son qui est absolument remarquable, parce qu'effectivement, encore une fois, la majeure partie de la série, c'est pas un huis clos, hein, mais ceci se déroule depuis la voiture, voilà. Et donc, il y a une perception des bruits, alors effectivement, parfois féeriques, totalement urbains, et parfois menaçants, qui font partie du hors-champ aussi de la série, et qui sont extrêmement bien pensés, et de manière cohérente avec le reste, effectivement, de l'écriture. Je suis entièrement d'accord avec vous, ça ne réinvente rien, mais ça exécute extrêmement bien cet hommage, à mon sens, encore une fois, mais deux de nos chroniqueurs ont encore le droit de s'exprimer. Enfin, Benoît, d'ailleurs, je réfléchis encore. Allez, mon petit Benoît.
Oui, non, le son, effectivement, le son dans l'habitacle, c'est quand même assez impressionnant, d'autant plus que quand la fenêtre s'ouvre, tout d'un coup, on a le son de l'extérieur qui arrive, et dès qu'elle ferme, en fait, on flippe. Et on flippe dès le début. C'est-à-dire, dès le début, on se dit, bon, ça va mal se passer. Dès qu'on a compris, en fait, dès le premier épisode, qu'en réalité, la série ne tournera pas autour des passagers qui vont rentrer dans son VTC, mais que ça va être ailleurs que ça va se passer. D'ailleurs, ça, je le regrette un petit peu, parce qu'il y avait vraiment de la matière à faire une vraie et longue série où on aurait pu aussi avoir des moments un petit peu avec ces personnages qui passent dans l'habitacle, qui sont un peu zappés les uns après les autres. Ça crée juste un peu d'ambiance. Ça dit deux, trois choses intéressantes, mais c'est pas le propos, hein. C'est pas leur propos. Mais du coup, on sait que, voilà, le thriller va commencer et dès qu'elle ferme les fenêtres, on flippe. Moi, je trouve ça extrêmement, réussi. La course-poursuite, par exemple, dans le parking, qui est un cas d'école des films noirs, je trouve que là, ils le réinventent avec des courses-poursuites avec marche arrière, en circulaire, enfin des choses que extrêmement bien mises en scène et pas évident.
Ah oui, la position de la caméra est extrêmement bien pensée justement en termes d'angle, de profondeur de champ.
Et c'est vrai qu'on est en empathie tout de suite avec ce personnage, même si je trouve que le format court fait que on aimerait en savoir encore plus sur elle et que les coups de fil à sa fille et à son ex ou les discussions avec son frère ne suffisent pas, je trouve, à compléter. Il y a plein de blancs dans cette histoire et à nous de les compléter. Du coup, il y a une fin de série qui se finit un petit peu avec deux, trois infos qui sont glissées là, qui laissent présager une saison 2, ce que j'aimerais bien justement pour qu'on puisse découvrir un peu plus ce personnage.
Mais est-ce que cette absence d'information n'est justement pas une des qualités de la série?
Moi, je trouve.
Où généralement, on nous déballe, on déroule, j'allais dire, le CV des personnages. Là, on est dans une unité de temps. Elle prend des clients, elle va se retrouver embrinquée dans le trafic dans lequel son frère travaille. Je trouve qu'à aucun moment, on a l'occasion, et on n'en a pas vraiment besoin, de savoir d'où elle vient, qui elle est, immigrée, pas immigrée. On s'en fout, le personnage, il est comme ça dans l'instantané de cette nuit particulière, et j'allais dire de cette unité de temps qui fait rejaillir la tragédie qu'elle est en train de traverser. Émilie.
Oui, je partage pour l'essentiel, effectivement, l'avis de mes camarades et le vôtre, Xavier.
Ça, c'est bien, parce que c'est moi le patron.
J'ai compris.
Je vais vous donner quand même un tout petit peu les règles du jeu.
Non, moi j'aime beaucoup effectivement l'économie de cette série, l'économie de dialogue, l'unité qui s'en dégage, l'unité visuelle, l'unité sonore, le fait que effectivement tout repose sur, l'essentiel en tout cas repose sur ce personnage de femme chauffeur de VTC qui, je trouve, est une très bonne idée de pitch. C'est vrai que dès le pitch ça marche et dès qu'on voit le premier épisode, on sent que ça va marcher, on comprend beaucoup beaucoup de choses de ces enjeux à cette femme dès la première séquence où on la voit. Je vais laisser les auditeurs et auditrices la découvrir, cette scène, mais on comprend qu'elle a une vie compliquée et que elle va avoir des enjeux importants. Non, moi je trouve que c'est vraiment réussi.
Et vous avez raison de dire que c'est un personnage sexué, c'est-à-dire que le fait d'être femme dans un VTC la nuit, même si ça n'est qu'esquissé, on voit quand même qu'il y a des gens totalement indifférents, bourrés, qui dorment, ça c'est le côté humoristique, puis il y a quand même des gens qui se disent qu'ils peuvent tenter leur chance sous prétexte qu'elle est seule, qu'elle est isolée, que ce sont des mecs, voilà. Et ça, c'est rappelé.
Il y a 2-3 ans, je pense que ce personnage aurait été un homme, et là, c'est une femme, mais c'est pas une femme transformée, enfin, c'est pas un homme qu'on a transformé avec des attributs féminins. C'est vraiment une femme avec une problématique de femme, avec une vie de femme, avec des rapports au monde qui sont des rapports de femme, et avec tout ce qui la fonde et cette espèce d'instinct de survie qu'elle a, qui vient d'ailleurs effectivement qu'on nous explique pas, mais qui du coup participe très très fort de ce personnage qui démarre au quart de tour dans tous les sens du terme d'ailleurs, et qui se bat moralement mais physiquement s'il faut. À un moment donné, elle tape avec ses petits poings un mec avec lequel elle a aucune chance, mais elle y va, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment bien, quoi. Je trouve ça nouveau dans le paysage aujourd'hui, où de temps à autre, on sent qu'un personnage s'est transformé en femme, mais n'a pas forcément été réécrit pour. Là, elle est écrite à la base, et c'est vraiment une chauffeuse de VTC, quoi.
Alors, il faut savoir que la série est disponible soit en forme d'unitaire, c'est-à-dire oui. 1h40, soit en forme de série. Ce serait dommage peut-être de se priver du plaisir de la série aussi, parce que je trouve qu'il y a un art consommé du cliffhanger, de l'interruption, du coup théâtre sur lesquels s'interrompent les épisodes, et qui font aussi partie de ce vieux plaisir ancestral de la série, qu'elle soit audio ou qu'elle soit télévisuelle.
Cela dit, l'unitaire respecte ça. Hein. J'ai regardé que le début, mais les 25 premières minutes de l'unitaire sont identiques à la série. Hein.
Oui, on sent d'ailleurs que s'il y a une version d'1h30, le découpage, vu que les épisodes n'ont pas la même durée, le découpage suit quand même le découpage du scénario et des cliffs écrits dans le scénario.
Donc sur un registre maintes fois vu, eh bien paradoxalement, c'est une excellente surprise. Oui. VTC, disponible soit en unitaire, soit en 5 épisodes de 20 minutes, sur MyCanal.
You gotta know, I'm feeling love, made of gold. I never loved another one, another you. It's gotta be love, I said it. You gotta know, I'm feeling love. You gotta know, I'm feeling to be my warning of anything there that's made of gold. A physical kiss is nothing without it, and you close your eyes to see what it's done.
Love, I said it. You gotta know, I'm feeling love.
Gold par Chet Faker. Une caméra glisse le long d'une route en plan séquence. Le clip fait penser immédiatement à Lost Highway, le film de David Lynch. La voix, elle, est unique, passant d'aigus voluptueux à une gravité rocailleuse qui font écho à l'asphalte du clip. Un titre noctambule et évaporé signé par cet artiste australien à la barbe aussi fournie que son talent. Oui, parce qu'il n'y a pas que Benoît Lagan qui a le droit de parler cheveux et barbe.
France Inter. Série.
C'est l'heure, avant de conclure cette émission, du plateau télé. Et chère Isabelle, vous nous recommandez la saison 2 de Validé sur Canal+, qui est une suite sans en être une vraiment, puisqu'on a changé de personnage principal.
Oui, mais il fait beaucoup référence à ce qui se passe précédemment. Alors j'arrive peut-être un peu tard, parce que cette deuxième saison de la série créée par Franck Gastambide en 2020 a fait un carton dès le premier jour de sa diffusion, mi-octobre.
On parle de 10 millions à ce jour de visionnage de la série. Hein.
Voilà, donc enfin, néanmoins, s'il reste des auditrices et des auditeurs qui ne l'ont pas vu, je voulais faire un petit focus parce que je trouve cette saison plutôt réussie, addictive, renouvelée, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un des reproches qui était fait à la première, c'était de dire que c'était un monde essentiellement masculin. Et là, eh bien, voilà, le personnage principal est une rappeuse, avec tout ce que ça comporte comme idées préconçues, comme clichés en tout genre, évidemment, à combattre ici. Et en plus, Laetitia Kerfa, qui est donc une vraie rappeuse dans la vie, et qui est aussi excellente comédienne, est magnifique. Elle est à la fois donc cette voix, elle est cette présence indiscutable, et nouveauté, je trouve, dans la série, elle est souriante, elle est lumineuse. Et on est habitué aux rappeurs avec des gueules un peu fermées, patibulaires presque. Et là, voilà, il y a quelque chose de très très joyeux, de très lumineux chez ce personnage qui, moi, me plaît beaucoup. Et donc, j'ai vraiment aimé ce personnage. Après, c'est à la fois immersif et didactique. Je pense que si on n'aime pas le rap, il faut regarder cette série. Et si on aime le rap, il faut regarder cette série, en gros.
Vous brassez quand même un très large panel de téléspectatrices,
voilà,
et téléspectateurs.
J'essaye de ratisser le plus large possible de ceux qui l'ont pas encore
vu. Là, il reste plus grand monde, quoi.
Alors, parce que, en fait, vous dites c'est pas tout à fait une suite. Il y a un coup de force que je ne révélerai pas pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1, qui clôt cette saison 1, et donc auquel il est fait référence constamment dans la saison 2. Et les personnages sont... Évidemment, les personnages secondaires deviennent un peu plus principaux et découlent de cette première saison. Donc néanmoins, c'est vraiment une saison 2. C'est encore plus violent, encore plus la loi de la jungle, enfin en tout cas la loi de la rue. On est presque chez les gangsters et il y a une idée un peu peut-être angélique qui est de se dire que ça n'existe pas en France et que ça n'existe qu'en Amérique. Et donc ça, c'est assez troublant et c'est même presque dérangeant parce que ça y va dans la vengeance, dans la loi du talion, et c'est pas forcément ce que je préfère. Mais voilà, c'est assez frontal, c'est assez cru, et je ne révélerai rien du dernier épisode, sauf que ça se passe ici à France Inter. Mais néanmoins, voilà, je pense qu'il y aura une saison 3 et je pense qu'ils arrivent quand même à renouveler beaucoup, beaucoup de choses intéressantes dans cette série.
Vu le carton plein de cette saison 2, je pense que oui, effectivement, on peut parier sans prendre beaucoup de risques sur une troisième saison. Émilie Gavoil, vous nous recommandez Insecure, dont vous attendez avec impatience la cinquième saison sur OCS.
Oui, tout à fait. Je recommande Insecure et je glisse aux auditeurs et aux auditrices qui n'auraient pas vu les saisons précédentes de s'y plonger à cette occasion-là, puisque c'est une série qui n'a pas reçu, de mon point de vue, l'écho qu'elle méritait de ce côté-ci de l'Atlantique. Hein. C'est un phénomène aux États-Unis, et en France, pas tout à fait. Alors, c'est une série qui se passe à Los Angeles. On y suit les tribulations amicales, amoureuses et professionnelles d'Issa, qui est une jeune trentenaire et qui est en fait le double de fiction d'Issa Rae, la créatrice. Alors, elle l'a créée avec un garçon qui s'appelle Larry Wilmore. Mais elle est aussi productrice, interprète principale de cette comédie dramatique sous forte influence de Girls, de Lena Dunham, puisque comme...
Il y a pire comme référence, hein, nous sommes tous d'accord.
Voilà, tout à fait, il y a pire, et puis c'est une série qui a vraiment marqué son époque, marqué toute une génération, et je trouve qu'Insecure, elle aussi, voilà, est de ces séries dont on parlera et dont on se souviendra pour les années 2010. Donc à la différence de Girls, Insecure nous emmène à Los Angeles, dans un quartier qu'on a de mémoire assez peu vu à la télévision, à l'écran, de manière générale, Inglewood, au sud de la ville, qui est un quartier résidentiel, plutôt classe moyenne d'ailleurs que résidentiel. Et l'autre différence majeure avec Girls, c'est que Issa Rae nous fait partager la vie et le quotidien de jeunes femmes afro-américaines. Et ça aussi, de mon point de vue, c'est assez neuf. C'est l'une des premières, je crois, séries à avoir eu un casting et des personnages vraiment à 100% composés de femmes noires de cet âge-là. Et donc le titre l'annonce, hein, Issa Insecure, donc en bon français, on va dire qu'elle est intranquille, elle hésite beaucoup dans tous les moments de sa vie. Dans son quotidien, mais surtout sur des choix existentiels, ses choix amicaux, ses choix amoureux, son destin, quel destin choisir. Et elle se débat aussi pas mal, alors c'est moins évident et on s'en rend compte au fil des épisodes et des saisons, elle se débat aussi beaucoup avec son identité, et notamment l'identité afro-américaine qu'on lui assigne très souvent, à laquelle on la renvoie et avec laquelle elle se sent pas forcément très à l'aise. Donc c'est tout cet apprentissage que raconte la série, qui évolue d'une très belle manière et qui et dont moi j'aime beaucoup la manière assez discrète mais constante de faire œuvre politique et de déconstruire les clichés sur les Noirs et sur les femmes noires en particulier.
Insecure, c'est le conseil d'Emily, disponible sur OCS, 4 saisons à ce jour et une 5e à venir. Et une heure en série, c'est fini, comme nous l'indiquent ces beaux violons comme ça qui sortent de nulle part. Mille merci à vous, Émilie, Isabelle et Benoît d'y avoir participé. Merci
vous,
évidemment,
Xavier.
Une fois encore. Oui, j'aime bien ça, la flatterie, ça marche toujours. À vous toutes et à vous tous de l'avoir écouté au programme ce soir. Nous vous avons recommandé ou pas Pina sur Arte TV, Killer Social Club sur Audible et VTC sur My Canal la semaine prochaine. Nous évoquerons Colin in Black and White sur Netflix, mes funérailles sur Arte et Chapel White sur Prime. Demain soir, un masque et la plume consacré au cinéma, une heure en série, une émission que je vous invite à réécouter en podcast. Il y a un site internet sur lequel vous pouvez retrouver les séries, le programme, nous envoyer des courriers, un compte Instagram, une heure en série officielle. L'émission a été réalisée par de main de maître par Marie-Annick Rimbaud, que serions-nous sans elle. La programmation musicale était assurée par Valentine Chédebois. J'ai eu le plaisir de préparer cette émission avec Amel Kaldi et ce soir, à la technique, il y avait à la fois Rémi Sistiaga et Jérémy Kaufmann.